Les podcasts de l'Institut de France. En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Elle n'a jamais pris de chemin tout tracé, car Colline Serrault a choisi d'emmener l'art sur tous les fronts, au cinéma, au théâtre, à l'opéra ou encore dans la peinture. Plusieurs territoires qu'elle a investis avec une liberté de ton salvatrice. Élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2018, et loin de se laisser enfermer par ses titres prestigieux, Colline Serrault reste avant tout une exploratrice insatiable. Curieuse de tout, nourrie dès l'enfance par la nature et les livres, elle a toujours travaillé sans relâche, animée par un désir profond de comprendre le monde. On dit d'ailleurs de ces films, qui ont marqué des générations, qu'ils étaient bien en avance sur leur temps. Dans « Trois hommes et un couffin », « La crise » ou encore « La belle verte », elle aborde des thèmes invisibles au cinéma dans les années 90, comme la charge mentale des femmes et la destruction de la planète. Dans cet épisode, Colline Serrault partage son énergie indocile et sa parole libre. Bienvenue dans le 7e épisode d'En habit vert. Colline Serrault, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons passer un moment ensemble aujourd'hui pour retracer votre parcours en une heure environ, ce qui paraît bien peu pour qui sait tout ce que vous avez fait durant votre carrière. Vous avez en vous une hyperactivité et une liberté que vous avez héritée peut-être de vos ancêtres. En tout cas, les premières années de votre vie, vous les passez dans la Drôme, dans une petite commune de la France de l'après-guerre. Et là-bas, vous grandissez aux côtés de trois femmes absolument extraordinaires. Alors, il y a d'abord votre tante, Simone Monnier, et puis aussi Marguerite Soubéran et Catherine Kraft. À toutes les trois, elles dirigeaient une école tout à fait pionnière qui prône alors une éducation nouvelle, vraiment à l'avant-garde de toutes les méthodes d'éducation. Cette école, c'est l'école Beauvallon. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette école tout à fait originelle?
Je n'ai pas vécu l'enseignement, mais j'ai vécu la philosophie de cette école qui était... Beaucoup de liberté, une énorme confiance dans la nature et on était sans arrêt dehors, tout le temps dehors. Déjà ça, c'était important. C'était aussi une école, il n'y avait pas de limite, donc on était dans la nature, complètement dans la montagne, dans le maquis.
Pieds nus aussi.
Pieds nus, 6 mois de l'année, oui. On n'avait pas du tout tout ce système de surprotection qu'il y a maintenant. Et puis c'était très, très sobre, une sobriété très, très bien vécue. On mangeait très bien, mais je veux dire, il n'y avait aucune... Cette espèce de surconsommation de maintenant, aussi bien dans la bouffe que dans tout. On n'avait pas de jouets. On jouait parce qu'on jouait avec la nature, quoi. Puis il y avait une philosophie qui était que les enfants sont tous doués pour quelque chose et qu'on doit pouvoir leur présenter toutes sortes d'activités. En plus de l'école, il y a quand même les choses qu'il fallait apprendre, mais que chacun doit pouvoir développer ses dons et que l'échec ne doit être vraiment que quelque chose de très accidentel, mais on fondait tout sur le succès pour un gosse. Et à partir de là, le tirer vers d'autres choses qui l'attirent moins. Mais au moins, qu'il ait toujours un lieu où il soit en état de succès. Et ça, ça construit les gens. Ça... Alors que le système éducatif français cherche toujours la faute. Donc il y avait des ateliers de peinture, de sculpture, il y avait de la natation, il y avait du sport, il y avait mécanique, vélo. Tous les métiers pouvaient être pratiqués. Il y avait poterie, il y avait... Il y avait beaucoup de choses en art, mais bon. Et puis, il y avait aussi tous les matins une assemblée de toute l'école, la réunion. Il y avait l'assemblée d'abord, où tout le monde avait la même voix. Donc, tout le monde pouvait...
Les enfants autant que les adultes.
Autant que les adultes, oui. Ce n'était pas démagogique. Ensuite, quand on sortait de l'assemblée, tout le monde, il y avait une discipline, ce n'est pas la question. Mais au moins, il y avait un endroit où tout le monde pouvait s'exprimer à son tour. Donc, c'était aussi un apprentissage de la démocratie et de l'écoute de l'autre. Il y avait aussi que les garçons et les filles, on était une fois par mois en brigade de ménage. C'est-à-dire qu'on n'était pas tout le temps servi. On avait aussi une semaine d'essuyage de vaisselle. Et oui. Qu'on soit fille ou garçon. Donc c'était aussi très féministe, sans le dire. Mais on était tous mobilisés pour la communauté. Et puis il y avait les 5 minutes dans la réunion, dans l'assemblée, où on écoutait pendant 5 minutes seulement... Soit une musique, soit regarder un tableau ou on entendait un poème. Quelque chose qui, voilà, de la culture,
stimuler.
Quoi.
Mmh. Oui. C'était très novateur pour l'époque, mais encore pour aujourd'hui. Hein.
Bah, évidemment. Ouais. Ils n'en sont même pas encore là.
Non. Vos deux parents étaient artistes, en même temps des personnes très engagées. Votre père, par exemple, Jean-Marie Serrault, était metteur en scène. Il a été résistant pendant la guerre. Et votre mère, Geneviève, qui a aussi travaillé dans le théâtre, était très mobilisée au moment de la guerre d'Algérie. Elle a signé le manifeste.
Résistante aussi. Hein, oui.
Résistante aussi.
Elle a signé, oui, le manifeste de 121.
Oui, elle a signé en 1960.
Puis mon père a monté Katebiassine en pleine guerre d'Algérie. Donc, il a été obligé, menace de l'OS, obligé de partir en Belgique. Enfin, oui, ils étaient très engagés. Mais pas que pour l'Algérie. Ils ont été engagés déjà pendant la guerre contre le nazisme et l'antisémitisme. Ils ont été engagés au moment de la guerre d'Algérie, mais ils ont été après pour le Vietnam, après pour toutes les grandes luttes. Hein.
Pour tout.
Sauf mon père, pour les femmes, ça lui est passé au-dessus. Ça.
Vous dites qu'il avait des contradictions.
C'est un euphémisme.
En tout cas, on peut dire que le sens de la justice coulerait presque dans vos veines, Colline Serrault. Enfin, vous avez hérité de ce sens de l'engagement de vos parents. Et puis, vous avez aussi choisi la même voie qu'eux, des arts dramatiques. Enfin, au début, vous avez essayé de vous en éloigner un petit peu.
Depuis le début, toujours, je faisais beaucoup de musique, du piano, j'ai fait beaucoup de guitare classique à une époque. Vraiment, j'ai fait très sérieusement. Puis, quand j'ai eu les jambes assez longues, j'ai commencé à l'orgue.
Pourquoi l'orgue ? Enfin, c'est vous qui avez choisi.
Ah oui, j'adorais cet instrument depuis toujours. Oui, oui. Ça, c'est le côté parpaillot, hein, c'est le côté protestant du côté de ma mère, c'est-à-dire.
Ouais, vous descendez d'une lignée.
Oui, d'une lignée. Mon grand-père était pasteur. Moi, c'est pas que je suis religieuse, moi pas du tout, mais c'est que c'est aussi une tradition musicale. Hein. La Suisse et les protestants chantent à quatre voix depuis leur petite enfance, quoi. Et les protestants chantent toujours des chorales de Bach. Enfin, il y a une culture musicale qui est beaucoup plus forte en Suisse qu'en France.
Oui. Et donc, vous avez suivi des études
J'ai suivi après, oui.
Pendant un premier temps.
J'étais au conservatoire de la rue de Madrid, qui était un peu, à l'époque, le conservatoire supérieur en histoire de la musique et esthétique. J'ai fait de l'harmonie, enfin bon, tout le cursus. Mais après, au bout d'un moment, le métier d'organiste, vous êtes très, très en contact avec le clergé, vous voyez.
Oui. Et ça ?
C'est pas tellement ma tasse de thé. Il faut tout le temps le lécher le derrière, enfin, pour être poli. Et non. Alors donc, j'ai pu avoir un orgue, puis deux, puis trois à la maison. Et donc, maintenant, je travaille tout le temps chez moi. Et comme ça, je suis comme toujours en contact avec cet instrument.
Et vous continuez à faire.
Mais après, bon, il y avait le virus du théâtre. Alors, j'ai fait ça en cachette de mes parents, parce que tout le monde était dans le théâtre. Alors, ça faisait pas bien. Enfin, pour moi, c'était ridicule de m'y mettre aussi. Et puis finalement, je suis rentrée à la rue Blanche. Et voilà.
Mais à quel moment vous avez dit, en fait, c'est le théâtre qu'il faut que je fasse
Je ne sais pas, juste après le... Enfin, j'ai fait une année de fac quand même, mais c'est tellement... Enfin, je ne sais pas, j'étais inscrite en psycho, en littérature. Ça ne m'intéressait pas, j'avais lu déjà tout ça. J'avais un livre ou deux livres par jour, enfin, que je lisais pendant la classe. Je n'ai jamais tellement suivi la classe. Et donc, j'avais beaucoup, beaucoup lu, parce que ma mère était une littéraire. Donc, je connaissais vraiment bien la littérature. Bien française, bien sûr, tous les grands auteurs du 19e, mais anglaise, américaine aussi. Donc, quand vous avez lu, je ne sais pas, des tas de trucs, j'avais déjà lu Balzac, j'avais lu Faulkner, j'avais lu... Ma mère nous lisait l'Odyssée quand on était petit dans le lit, elle nous disait toutes les grandes histoires de la Bible. Donc, je veux dire... Ouais, c'est pas que je veux me vanter, parce qu'après, la culture, elle s'oublie, on la mélange avec ce qu'on veut faire maintenant, etc. Mais franchement, j'ai pas du tout apprécié la faculté.
Cette année-là,
non,
ouais.
Pas du tout. Et donc, en cachette, je prenais des cours vaguement de théâtre, puis j'ai présenté La Rue Blanche, je suis rentrée vraiment in extremis, parce que j'étais pas dans les canons non plus, du tout. J'étais très jolie, mais alors on me mettait dans les jeunes premières, mais ça me rasait. Et puis, je parlais droit, moi. Je parlais pas comme il faut, comme à la Comédie Française. Oui.
Et donc, vous étiez drôle
aussi, j'étais drôle.
Qui correspondait
aussi,
pas trop.
Non, pas du tout. Une jeune première n'est pas drôle. Donc, franchement, bon, je suis rentrée à la rue. Bon, de toute façon, c'était en 68, donc il y a eu mai 68. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils m'ont élue, alors que je ne me suis pas présentée présidente du CA, alors que j'étais timide et tout. Je comprends pas. Et évidemment, quand tout s'est rentré dans l'ordre, j'ai été virée, quoi, comme tout le monde. Mais on a été un gros paquet à être virée. Donc après, j'ai été engagée comme stagiaire au français. Donc là, j'ai commencé à bosser, puis surtout à écrire.
Vous avez fait ce stage à la Comédie Française, mais très vite, quand même, l'écriture vous a beaucoup
intéressée. C'était très vite, oui.
Plus intéressée, pourquoi? Parce que...
Mais j'écrivais depuis toujours.
Parce qu'elle vous donnait plus de pouvoir, plus de liberté?
Ah non, pouvoir, non, j'en ai jamais eu rien à faire du pouvoir, non. Non, l'écriture, c'était parce que je voulais faire des films. Et puis parce que j'écrivais de toute façon tout le temps. Depuis que je sais écrire, j'écris. Des journaux, des carnets, des pensées, des tas de trucs. J'ai des masses d'écrits depuis que j'ai 7-8 ans, quoi.
Et à côté du théâtre, on vous a conseillé de vous familiariser aussi avec les arts du cirque.
C'est parce que...
Du trapèze, notamment.
Oui, parce qu'à la Rue Blanche, il y avait un cours d'acrobatie. Et j'y allais parce que c'était un peu le seul moment où je pouvais voir mon père. Et puis de toute façon, j'aimais bien le sport. Acrobatie et danse moderne. Et donc, 3 fois par semaine, je faisais ça. Et puis après, l'école du cirque a ouvert de Fratellini. Et là, je m'y suis précipitée. Et comme je dis dans mon spectacle, comme j'avais tout le temps été dans les arbres, dans la Drôme, quand j'ai mis mes mains sur la barre du trapèze, c'était hyper facile pour moi. Ouais, j'avais des bras massiers. Donc à partir de là, ça a été une longue, longue histoire qui a duré jusqu'à pratiquement... J'ai arrêté vers 60, un peu plus de 60 ans, quoi.
Ah oui.
Donc j'ai vraiment tout le temps, toute
ma vie. Et ça vous a aidé
Ça m'a beaucoup aidé, ça. D'abord parce que j'aimais ça, parce que c'était une drogue dure, hein, le trapèze. Mais aussi parce que j'ai eu une vie extrêmement... comment dire... J'avais fait des choix où je crevais, où je... Enfin, c'était très fatigant, quoi. C'était des choix de vie très, très, très durs. Donc, mais ça m'a tout le temps aidé parce que j'étais très costaud, quoi. Très, très costaud. Dans ce métier-là, il faut avoir une santé de fer.
Et donc, vous aviez toujours dans le viseur le cinéma. Vous vouliez écrire des films.
Oui, et puis j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. J'allais à la Cinémathèque Rue d'Ulm, j'allais partout. Je traînais tout le temps au Quartier Latin à voir tous les films. Quand moi, j'étais jeune, c'était vers 12-13 ans que je faisais ça jusqu'à plus tard. Ces films-là, maintenant, sont devenus des classiques, mais pour nous, ils sortaient. C'était des films qui sortaient sur le moment, quoi.
En habit vert, rencontre avec une académicienne.
Colline Serrault, vous êtes reconnue comme la reine des dialogues. Et dans l'un de vos films, La Crise, qui est une sorte de comédie sociale sortie en 1992, il y a cette tirade devenue aujourd'hui complètement culte. C'est la tirade de l'actrice Maria Pacaume. Et alors, dans cette scène, elle joue une mère de famille qui, devant son mari et ses enfants, vide complètement son sac, mais de façon très ferme et très digne. Alors, cette scène, elle est ultra connue, mais c'est toujours un bonheur de la réécouter.
Écoute, Victor. Tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable! Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Mais je rêve. Ma parole, je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monstres de billes. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul?
Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça?
Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse.
Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer.
Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour.
C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette, le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse. Je nage dans le bonheur.
Ça, c'est une tirade qui a fait un bien fou à des à de nombreuses mères de famille, à des épouses. Ça a dû être assez jubilatoire.
À des filles aussi. Hein.
À des filles.
Et puis surtout à des hommes.
Ouais.
C'est parce qu'il y a énormément de mecs qui m'en parlent. Je suis assez frappée pour ça. Oui, oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
En fait, c'est-à-dire, ils disent qu'ils adorent, quoi, parce qu'en fait, ça les soulage aussi d'une certaine culpabilité qui est sur eux, sur certains, pas tous, mais d'avoir à s'occuper de leur mère, quoi. De porter cette culpabilité, d'avoir... Est-ce que j'étais un bon fils? Est-ce que je... À partir du moment quand les mères vieillissent, est-ce que... Et puis, ou bien, est-ce qu'elle me fait suer ou elle me demande des trucs? Il y a toute cette espèce d'ambivalence vis-à-vis de la mère. Et pour les femmes, je pense que c'est simplement que c'est la première fois au cinéma que d'une manière extrêmement simple et sans agressivité, c'est qu'il y a une femme qui dit non.
Mmh. De façon très, très douce.
Et puis heureuse, surtout. Ouais. Le service affectif, maternel, culinaire, ménager, psychologique, le service est interrompu. Voilà. Il n'y a plus de service. Je pense que c'est très, très utile pour nous de dire non. Parce qu'il y a toutes les lois implicites, celles qui ne sont pas écrites, qui sont bien plus puissantes que celles qui sont écrites et qui nous écrasent. Alors, je ne parle même pas des violences sexuelles, mais je veux dire, sur le plan de ce que nous, femmes, on doit faire en entrant dans cette vie, c'est très compliqué de s'en débarrasser de ça. Enfin, moi, je vois autour de moi, toutes les filles que je connais n'ont pas d'enfants, quoi. Avant, à 25 ans, on avait des gosses, quoi. Seulement, elles n'avaient pas de métier, etc.
Mais vous qui avez justement beaucoup dénoncé la charge mentale supportée par les femmes, décrit avec beaucoup de justesse la parentalité sans phare.
Oui, tout ça. Dans Trois hommes et un couffin, oui.
Voilà, par exemple, vous l'aviez perçu avant même d'être mère. Et est-ce que ça n'a jamais remis en question votre désir de maternité parce que vous avez trois enfants?
Ah, bah oui, non, mais pas du tout. Ça n'a jamais rien remis en question, mais j'ai vu ma mère vivre. Hein.
Oui. Qui a élevé ses trois enfants.
Hein. Oui, qui était une écrivain remarquable, qui était une éditrice, qui était une découvreuse de textes et tout, et qui a élevé seule trois enfants d'une manière extrêmement dure, quoi.
Et vous avez déjà renoncé à des projets personnels, professionnels, pardon, pour...
Jamais rien renoncé.
Pour rester, jamais.
Non. J'ai mené tout ça de front, c'est pour ça que c'était bien d'avoir fait du trapèze. Parce que les nuits étaient courtes.
Sans concession. J'en reviens à l'écriture, Colline Serrault. Comment vous faites pour construire vos dialogues? Est-ce que vous visualisez à chaque fois très vite la scène, les acteurs que vous voulez? Comment ça se passe?
Non, je n'écris jamais pour un acteur, ça.
Okay.
Jamais. De toute façon, les acteurs sont sympas, mais enfin, le cimetière sont remplis de gens irremplaçables. Hein, donc, un acteur peut remplacer un autre, ce n'est pas un problème. J'écris pour des personnages. Mais c'est beaucoup de lecture, beaucoup de travail sur la politique, l'économie, la géopolitique, comment va le monde, la philosophie, etc. C'est surtout ça qui fait que c'est une soif d'apprendre comment va ce monde, comment il est, comment il s'articule. Là, dans ce contexte-là, l'humanité m'intéresse énormément parce que je la relie à tout ce qui est en train de bouger dans la société. Alors après, comment on écrit? Donc c'est pas quelque chose qui vient comme ça, plouf plouf. Hein. Il y a des techniques d'écriture et puis surtout, je les passe, comme disait Flaubert, au gueuloir. C'est-à-dire que je les dis, je les redis, je les relis. C'est une question de rythme, hein. C'est une question de musique. C'est une musique, un dialogue. Est-ce qu'il faut rajouter un mot, prendre un mot plus court? Est-ce qu'il faut enlever un E, le rajouter? C'est écrit vraiment au millimètre. Et d'ailleurs, les acteurs, quand ils le font, on a vraiment l'impression qu'ils inventent. Quand ils font vraiment le texte.
Mais ils inventent jamais. Il n'y a jamais d'improvisation.
Non. Je ne suis pas contre l'improvisation parce que chacun fait ce qu'il veut et les metteurs en scène, on fabrique des prototypes. Donc chacun a sa méthode. Moi, je trouve que toutes les méthodes sont belles. Mais moi, c'était comme ça. Moi, je suis musicienne et j'écoute énormément les gens. Je sais très bien comment ils parlent. J'entends comme ils parlent et je sais aussi comment marche une punchline. Voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment bien écrire des dialogues si on n'est pas musicien.
Et aujourd'hui, enfin, vous parliez de punchline, effectivement, où il y a plein de scènes cultes qui vivent d'ailleurs une deuxième vie sur Internet. La scène du rétroviseur dans La Belle Verte avec Vincent Lindon, la couche et le biberon à 3h du matin dans Trois hommes et un couffin, un film qui a fait plus de 10 millions d'entrées, qui 12. A reçu 3 Césars.
Et puis la scène de Zabou maintenant.
Il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices à l'époque?
Oh, si, il y en avait quand même. Si. Il y avait Varda, il y avait Diane Curis qui avait fait un carton avec Diabolomante. Non, on n'était pas très nombreuses. C'était quelque part immonde qu'il y ait si peu de femmes, mais en même temps, c'était beaucoup plus moins difficile que maintenant. dans le sens que on n'était tellement pas nombreuses qu'on n'était pas dangereuses. Parce que maintenant, il y a énormément de femmes, pas encore, hein, enfin, presque parité, hein, qui font des films et qui marchent. Et donc là, on devient vraiment dangereuse, quoi. Donc il y a une espèce de
concurrence.
Il y a la concurrence là, et c'est ce qui explique aussi tout un mouvement de réaction masculiniste, quoi, ce qui est normal. Bon, révolution contre révolution. Mais bon, c'est un peu des fossiles. Ça va pas dans ce sens-là, le monde. C'est comme Trump, Musk et tout ça. Tous ces gens-là, c'est des fossiles.
Ouais. Bon, restez quand même un peu optimiste. Ça va changer. Ça finira par changer.
Ah, mais pas forcément à l'échelle d'une génération. C'est ça qui est difficile à vivre. Mais le monde va pas dans ce sens-là.
Je voulais vous parler de votre film La Belle Verte, qui est sorti en 96, qui a eu un succès un peu plus mitigé, on va dire.
Carrément nul, même, oui, on peut dire.
c'est
enfin, je sais pas, je crois qu'on a fait quand même 1 million d'entrées, ce qui est énorme pour maintenant.
Ouais, mais pour,
pas
l'époque,
pour l'époque, c'était... et pour le prix qu'il avait coûté, surtout. C'est un film cher.
Dans ce film, vous avez beaucoup travaillé autour de l'utopie. Ça, c'est un sujet qui vous a beaucoup stimulé. Vous imaginez dans ce film une planète verte habité par une société, une civilisation égalitaire, proche de la nature. Et puis à côté de cette planète verte, il y a de la planète Terre, notre planète, qui, elle, est une planète complètement arriérée. Mais en fait, vous décrivez notre civilisation.
Oui.
Comment cette idée géniale vous est venue ?
J'ai essayé de reculer et d'avoir une vision différente de ce qu'on vit, au lieu d'être immergé dedans et de pouvoir la regarder. C'est aussi ce que je fais, moi, dans ma démarche, de toute façon. Mais... il y a une très belle parabole de Brecht qui dit dans un repas, tout le monde est à table, et quand un révolutionnaire vient se mettre à la table, tout d'un coup, tout le monde découvre que la bouffe était vraiment dégueulasse. Quoi. C'est un peu la fonction du révolutionnaire.
Ouais.
C'est de faire voir que non, ça va pas si bien que ça. Mais bon, en même temps, avec humour, parce que moi, j'ai pas de leçons à donner aux gens. Hein. J'analyse, je regarde, je regarde vivre et je suis moi-même dans des contradictions comme tout le monde. Hein.
Et je voulais vous reparler un peu de votre méthode de travail parce que vous le disiez il y a quelques minutes, vous travaillez beaucoup parce qu'on vous a souvent dit que vous aviez eu une intuition folle dans les années 90 à parler du couple normé, hétérosexuel, de la planète, etc.
Bah déjà, avec pourquoi pas, hein, le trouble.
Le trouble dans ce film.
Dans ces années, en 77, que j'ai écrit en 75.
Mais vous dites que ce n'est pas l'intuition, c'est d'abord quand même du travail.
Mais oui, c'est surtout une tension. Une tension vers une curiosité, vers savoir comment ça va aller, où ça va aller. Enfin, vraiment une curiosité politique énorme. Quand je dis politique, c'est pas les partis, hein, c'est l'organisation de la société, la
vie de la cité.
Oui, la cité, oui, vie de la cité. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a toujours complètement passionné. Alors bien sûr que ayant ce drive, cette vraiment profonde envie de comprendre, je cherche dans les livres. Après, je suis pas sociologue. Après, je le traduis, je mouline tout ça et ça devient une œuvre. Parce que je suis une artiste. On peut pas me dire, oh là là, quelle intuition. Non, c'est pas de l'intuition, c'est vraiment de la curiosité frénétique. Voilà, je dirais plutôt. Oui.
Ce que je cherchais quand même à trouver un fil directeur dans tous vos films, souvent ce sont des comédies sociales. Mais est-ce que vous acceptez ce mot-là ? Comment vous définiriez votre fil conducteur ? Enfin, s'il y en a un.
Il y a quand même une éthique derrière, il y a quand même un désir de... Quand vous dites utopie, l'utopie c'est compliqué, c'est-à-dire ça m'intéresse d'ouvrir les yeux sur les injustices. Voilà, c'est plutôt ça, je dirais. Parce que moi je les vois, et souvent la société les voit pas. Mais du temps à les voir. Là, les violences sexuelles c'est massif. Moi la question que je pose maintenant, la vraie question c'est, est-ce que vous connaissez une seule femme, une seule, qui n'a pas, à un moment ou à un autre de sa vie, subi une agression sexuelle, une discrimination, un mépris, un renvoi dans les filets parce qu'elle est une meuf, ou parce qu'elle est jolie, ou parce que ceci, ou parce que cela. Vous en connaissez une, vous ?
Non.
Mais non, c'est ça la question. La vraie question, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tout le système est fondé sur ça, sur cette inégalité-là, qui peut aller très très loin jusqu'au meurtre. Et le meurtre impuni, quoi. Donc, c'est pas que je suis plus féministe que les inégalités sociales aussi me révoltent, toutes les inégalités, mais j'en suis vraiment arrivée à cette conclusion et assez tôt, que c'est celle-là la première.
Avant tout.
C'est pas après. C'est pas, on n'est pas une petite minorité sympathique hein, qu'il faut défendre. Non, non. La première ségrégation, elle est là. Elle est là dans toutes les classes sociales, dans toute la société, depuis le début de l'humanité. Et ça, ça va de travers. Ça touche la manière dont on perçoit les autres animaux, l'écosystème, la terre, là où on est. Là où on est, on ne la voit pas, on la méprise, pareil. Et donc la destruction de l'écosystème est totalement liée à cette inégalité primaire qu'est le patriarcat, quoi.
Et les deux sujets, donc écologie et lutte contre le patriarcat, sont très liés. Il y a d'ailleurs un mouvement qui conjugue ces deux pensées-là, c'est l'écoféminisme. Vous aviez interviewé d'ailleurs, pour l'un de vos documentaires, l'écoféministe Vandana Shiva, une écoféministe d'origine indienne, qui s'est beaucoup engagée, notamment sur des questions agroalimentaires.
Oui, ah oui. Ben oui, mais ce qu'elle dit, c'est formidable. L'humanité est la seule espèce qui, sciemment, est en train de détruire sa base alimentaire. C'est fort, ça, quand même. Hein. Puis il y a Lydia et Claude Bourguignon, pour moi, c'est des génies. C'est eux qui devraient avoir le prix Nobel depuis très longtemps. Qui s'occupent de la microbiologie des sols et qui disent si jamais ça s'effondre dans notre société, bah, les animaux et les plantes feront un grand ouf de soulagement. Enfin, on va leur foutre la paix. Il n'y a qu'à voir, pendant le Covid, il y avait des dauphins dans le Grand Canal à Venise.
Je voulais revenir sur vos films, Colline Serrault. Voilà, vous plongez énormément dans le réel et vous avez réalisé des documentaires, on en a un petit peu parlé. Comment vous les envisagez, ces documentaires, par rapport à la fiction ?
Pour moi, je ne me dis pas, tiens, je voudrais faire des documentaires. Non, c'est qu'à un moment, il y a un sujet qui me mobilise tellement que je me dis, je ne peux pas le faire en fiction, ça. C'est comme quand on me dit, ah mais alors vous faites aussi de la peinture, vous faites aussi de la musique. Oui, bah oui, oui. Parce que justement, je ne me suis pas du tout enfermée dans un seul truc. Il y a un moment, ce que j'exprime, ça peut s'exprimer que par le cinéma, fiction, ou par le documentaire, ou bien il faut absolument que je prenne un crayon et que je dessine. Mais ça, c'est en train de changer, ça va beaucoup changer avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, il va y avoir, ils disent, à peu près 500 000 personnes, en tout cas en France, qui n'auront plus de boulot. Donc il va falloir qu'on change de vie, quoi. Qu'on se dise pas, je dois me lever, je dois être productive pour une boîte.
Mais pour vous, c'est pas une mauvaise chose, finalement.
Il y a plein de choses épouvantables. Et il y a plein de choses bien, comme toutes les grandes avancées technologiques. Mais par
rapport au travail, justement.
Il y aura 500 000 personnes qui n'auront plus de boulot. Et ce sera naturellement, bien sûr, d'abord les classes populaires, mais pas seulement. Hein. Il va falloir complètement réinventer la manière dont on sera sur cette terre.
Colline Serrault, vous avez une carrière plus que bien remplie. Donc vous êtes sur tous les fronts, on a parlé du cinéma, du théâtre, l'opéra, on n'a même pas eu le temps d'en parler. Vous êtes une artiste hyperactive, vous faites de la photo, de la peinture, de l'orgue. Tout vous semble possible, vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais vous ne renoncez à rien. Enfin,
non, mais parce que mais je ne me suis pas dit, je ne sais pas de manière bagarreuse que je fais. C'est simplement que j'obéis à ce que me dicte librement mon être, c'est tout. C'est qu'on n'est pas libre. Mais en fait, si vous regardez la vie des gens, regardez les femmes. Le matin, elles s'occupent des mômes. Elles font de la cuisine. Elles ont une vie d'une variété incroyable. Elles font les courses. Donc, il faut qu'elles voient rien. Elles sont économes. Il faut qu'elles voient les prix. C'est les meilleures économistes, les femmes, parce qu'elles se débrouillent avec des trucs. Bon. Et après, elles vont au boulot où elles font le service en général de classement, de rangement. Donc, elles ont un esprit super bien foutu. Parce que vous enlevez les femmes du monde du travail, je ne dis même pas. Hein. Tout s'écroule. Hein. Après, elles rentrent. Et puis, elles s'occupent aussi d'être jolies, tout ça. Elles ont un sens esthétique de comment s'habiller. Tout ça. Elles ont une variété de vie. Mais c'est ça, la vraie vie qu'il faut avoir. Alors, moins les contraintes de fric et tout ça, moins qu'on vous oblige à le faire. Mais si on a, je veux dire, la vraie liberté, c'est d'avoir aucune journée qui se ressemble. Et pas d'impératif. Et en fait, la population qui a un poil dans la main, une perruque dans la main, et qui veut rester au lit toute la journée, mais c'est minime. C'est à peine 0,1% de la population. Les gens, ils veulent avoir le doigt dans la prise et faire des trucs, quoi. C'est une philosophie un petit peu socialiste, sur les bords. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est que maintenant, les grands pays, s'ils veulent avancer, il leur faut 100% de leur cerveau. Parce que c'est les cerveaux qui sont la richesse d'un pays. Mais les cerveaux aussi pour faire des choses manuelles, c'est pas du tout que je dis, c'est seulement des intellos, non, non. Mais si vous avez que des cerveaux qui sont à la maison à s'occuper des gosses, comme dans certains pays que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas voir d'embêtement.
Ça périclite.
Ça périclite, parce que les autres, ils avancent avec leur cerveau. Parce que nous, les femmes, bon, on a commencé par les boulots subalternes, mais ça commence à changer, ça. Beaucoup de femmes mères, beaucoup dans la politique aussi, beaucoup de femmes à des postes extrêmement importants. Bon, il y a encore un plafond de verre, mais il est en train de se fissurer. Parce qu'on voit bien que, de toute façon, l'intelligence et les dons, ils sont distribués comme du sel au-dessus d'un plat. Tout le monde a la même intelligence, les femmes et les hommes, mais ils ne sont pas plus ou moins intelligents que nous. Nous, on est relativement très, très entraînés à la variété des occupations. Ça sera un plus plus tard.
Ouais. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon, Colline Serrault ?
Oui, bien sûr.
Quand
oui,
un événement anodin peut avoir des conséquences
oui, bien sûr.
Gigantesques dans la vie d'une personne.
De l'humanité, oui.
Vous, est-ce qu'il y a eu des rencontres, vous avez eu des rencontres déterminantes?
Ah oui, j'en ai eu une rencontre totalement déterminante et pour toujours et encore maintenant, tous les jours. Jean-Sébastien Bach.
Ah. Quand est-ce que vous l'avez rencontré?
Bah, très, très tôt. Hein, très tôt.
Il vous accompagne tous les jours? Vous l'écoutez tous les jours?
Je ne l'écoute pas, je le pratique. Ah. Oui. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est plus important, même si on joue mal, de jouer que d'écouter seulement. Parce que quand on le joue, on analyse, même sans le vouloir, on finit par rentrer dans le secret de fabrication. On ne pourrait jamais avoir, mais c'est important d'en jouer tous les jours.
Je voulais terminer par une dernière séquence. Dans cette émission, on consacre toujours, comme je vous l'avais dit, une séquence à l'Académie dont l'invité est issu. Alors vous êtes membre donc, de l'Académie des Beaux-Arts. Vous y avez été élu en 2018 dans la section cinéma audiovisuel. Comment on rentre dans cette Académie? Faut présenter une candidature?
Non, moi, je ne me suis jamais présenté. Non. Mais moi, je ne me suis jamais présenté. Après, j'ai écrit des lettres très courtoises à tout le monde en disant, etc. C'est une philosophie, ça. C'est pareil. J'ai eu beaucoup de toutes ces médailles, je ne sais même plus lesquelles. Je sais même plus. Mais,
la Légion d'honneur,
ouais,
je crois.
Ouais, des tas de trucs comme ça, j'en ai plein, j'en ai un paquet. Mais les choses comme ça, ça ne se demande pas pour moi, mais ça ne se refuse pas. Parce que c'est une question de courtoisie. Voilà. Donc là, ils m'ont demandé, j'ai écrit les lettres, j'ai déposé mes trucs que j'avais faits sur le bureau, et puis j'ai appris que j'étais élue. Donc, comment dire. Peut-être que j'ai été élue avec très très peu de gens, j'en sais rien.
Vous savez pas.
Non.
Et avant de rentrer dans cette académie, quelle image vous en aviez? Parce que comme ça, on vous imagine pas spontanément au Beaux-Arts.
C'est-à-dire que c'est quand même l'excellence. Il y a aussi ce qui m'a motivée, c'est quand même l'idée que je crois que j'avais été pressentie par Jeanne Moreau déjà il y a 5-6 ans avant. Et puis que ça n'avait pas marché parce que j'étais une femme.
Ah oui.
Et donc là, je me suis dit. Parce que depuis que Laurent Petitjard, maintenant, il y a plein de femmes à l'Académie des Beaux-Arts. C'est pas encore moitié, mais ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, quand je suis rentrée en 18, c'était pas la préhistoire, 18.
Mais non, c'était il y a moins de 10 ans.
On n'était pas nombreuses. Et ça, je me suis dit, ben voilà, c'est une occasion aussi d'être là, de dire on est là.
Et faire partie du changement, en quelque sorte.
Oui, faire partie du changement. Et puis, j'ai eu la grande surprise, quand je suis rentrée, de voir que d'abord, Laurent était vraiment quelqu'un de très, très actif et qui avait un vrai désir de changer la parité. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, parmi tous ces gens qui sont là, que j'aime ou pas leurs œuvres, aussi que ça, c'est toujours des gens complètement passionnés. Et puis, on se voit tous les mercredis. Il y a un côté famille.
Pour la séance.
Et qui m'a beaucoup, beaucoup plu, qui me touche beaucoup. Et on est tous différents. On échange, c'est des fois houleux, c'est des fois. Mais au moins, ça bouge.
Il y a du débat, il y a du dialogue.
Ah oui, il y a beaucoup de dialogue, oui. Oui.
Le jour de la cérémonie d'installation, l'académicien ou l'académicienne reçoit normalement une épée. Vous avez préféré qu'on vous remette un autre objet.
Ah bah vous n'allez pas, quand même prendre une épée, moi qui suis féministe. Non, je veux dire, bon. Que les mecs aient envie d'épée, c'est leur symbole sexuel, bon, ça va, mais moi, ça me caractérise pas, une épée.
Non. Qu'est-ce que vous avez choisi?
J'ai choisi une broche, un bijou qui appartenait depuis très très longtemps dans cette famille, 18e ou même avant, et que c'est une broche qui est très belle, enfin une très belle facture. Déjà, c'est aussi un objet d'art et qui ensuite représente l'amour.
Un cupidon.
Oui, un cupidon avec son carquois, avec toute la symbolique, en fait. L'art pour l'amour, quoi.
Oui, il a de multiples significations, ce
cupidon.
Oui,
il est très riche comme symbolique.
Oui. Cette broche, en plus, a survécu à de nombreux cambriolages.
Oui, j'ai eu beaucoup de cambriolages dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, ça a survécu. Donc, il y a un signe, là.
Vous êtes, pour l'année 2025, la présidente de l'Académie des Beaux-Arts et la présidente de l'Institut de France, qui donc, est le lieu qui offre le cadre de travail aux 5 académies. C'est une double charge pour vous. Qu'est-ce que vous voulez insuffler qu'est-ce que vous avez commencé même
très
à insuffler
modeste, vous savez. Non. D'abord, le fait d'être présidente déjà de l'Académie, c'est qu'on est, avec les conseils d'administration, on est au cœur du réacteur de ce qui se passe financièrement, de toutes les grandes décisions artistiques, financières. C'est un lieu de débat, c'est un lieu économique, c'est un lieu très concret. Et c'est pareil pour l'Académie, pour l'Institut. Alors après, on peut... Oui, mais moi j'ai demandé par exemple que pour la rentrée des 5 académies, pour les discours, qu'il y en avait assez, que ça soit 5 mecs qui parlent, quoi, ça suffit, quoi. Parce que nous, on est quand même 52% de la population. Donc même quand on demande la parité, on est sympa. Je sais pas, à l'Académie, je pose des questions, je parle comme je suis. Mais je ne prétends pas insuffler quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est tournant. L'année prochaine, je ne suis plus rien.
Ouais.
Oui, c'est un an. Donc, ce n'est pas un pouvoir du tout. Je dirais que c'est un service public. Pour moi, c'est plutôt un service. Il faut être là, vraiment. Il faut être là pour discuter. Il faut être là pour les conseils d'administration. Il faut donner ça à votre pays, à sa culture, pendant un an.
Oui, mais peut-être que vous laisserez votre empreinte. Enfin,
Je sais pas. C'est pas mon désir. Le fais peut-être, mais sans le vouloir.
J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez beaucoup changé par rapport à la Colline Serrault il y a, je sais pas, 35, 40 ans?
Ben, je crois que non.
Non? Vous êtes resté fidèle
je crois
à vous-même?
Oui. Oui. Ah oui, très fidèle, malheureusement. Non, certaines convictions que j'ai, elles sont toujours là.
On finit toujours normalement par un petit questionnaire. On pose 5-6 questions rapides pour connaître vos goûts. Le lieu où vous vous sentez le mieux sur Terre?
C'est le lieu où on est libre. C'est pas un lieu particulier.
Le film que vous avez réalisé et dont vous êtes la plus fière?
Ça, c'est comme si vous me demandiez quel un de mes enfants je préfère. Non. Tous mes films, je les aime. Après, le public, il fait ce qu'il veut. Ils partent dans le grand monde et ils grandissent. Mais j'ai plus de contrôle là-dessus. Mais moi, je les aime comme si... Voilà.
La période de votre vie que vous avez préférée jusqu'à maintenant?
Toute. Non, rien de rien.
Un conseil à donner à une jeune personne pour faire ses armes dans ce monde?
Faire du sport. Être costaud physiquement.
Faire du trapèze?
Non, pas forcément, mais un truc qui lui plaît. Bien manger. Manger, si possible, des choses saines. Peu. Ne pas acheter. Arrêter d'acheter. Et si quelque chose est là pour vous entraver dans votre création ou dans votre liberté, dire non. Dire non, c'est très important maintenant. Pas toujours pour les femmes, mais maintenant, c'est très important. Même non aux enfants, malheureusement. C'est triste, mais...
Ouais. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce qui vous apaise? Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'être apaisé?
Ah, c'est Bach.
Toujours Bach.
Dès que ça va pas, pouf.
Ça fait une parfaite transition. Pour la dernière question, la chanson que vous avez en tête en ce moment?
Ah ben, c'est dans l'oratorio de Noël. Le chœur qui s'appelle Erezai Dir Gott. C'est un chœur que j'ai beaucoup dirigé avec le chœur que je dirige.
On n'a pas parlé de votre chorale.
Oui. Mais... C'est vraiment un des plus beaux trucs qui existent. Ouais.
Merci beaucoup, Colline Serrault.
Merci à vous.
En habit vert, rencontre avec une académicienne. Les podcasts de l'Institut de France.